Trois vallées de Charles Ferdinand Ramu. Vous êtes assis sur une pierre, vous vous tenez penché en avant, les bras sur les genoux, vous écoutez. Personne. Le vent qui passe. Il faut prêter l'oreille plus attentivement pour distinguer enfin, dans les profondeurs du silence, ce frémissement léger comme quand une feuille morte glisse sur la terre sèche. C'est tout là-haut, sous cette corne grise, où toute une lessive est en train de sécher. Et dans chaque couloir, chaque anfractuosité, on voit un de ces draps de lit effilochés du bout, qui s'égoutte, qui commence un ruissellement. Il y a tous ces filets d'eau parallèles qui s'écoulent, et, à la fin, vont se rejoindre dans le fond de la combe, comme les nervures latérales d'une feuille à celle du centre. Vous êtes parti avant le lever du soleil. Il faut marcher 5 ou 6 heures. Et marcher ici, c'est monter. Marcher ici, c'est lever le genou, tant qu'on peut, à la rencontre de sa poitrine qui s'incline en avant, qui se redresse avec effort. Marcher ici, c'est se tirer peu à peu hors de la nuit et s'élever à la rencontre du soleil. Marcher ici, c'est être dans la forêt d'abord, puis faire en sorte qu'elle s'appauvrisse et qu'on l'épuise, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que quelques pauvres arbres rabougris, couverts de barbe, égaillés sur la pente qui devient de plus en plus raide. Il renonce, vous persévérez. Vous avez quitté le gazon, vous êtes parmi les cailloux roulants, dont les nappes se mettent en marche sous vos pieds, mais elles vont en arrière, et vous, vous allez en avant. Vous êtes dans le jour, vous êtes dans le bleu. Le soleil sort droit devant vous et à peine au-dessus de vous, de derrière un des mamelons rocheux qui, reliés l'un à l'autre par les dépressions de la chaîne, dessinent sur le ciel comme une lame de scie ébréchée. Vous êtes au bonheur, vous êtes dans le bleu, vous êtes dans la pureté, vous êtes dans le dépouillement et la nudité de la terre, car elle n'est plus ici qu'elle-même, minérale, sans revêtement et sans masque. Il y a quelque chose de doré et de rose qui vient sur vous comme un habillement nouveau. C'est ici la naissance d'une vallée. Le peu d'eau qui s'écoule, le peu qui vient de droite, le peu qui vient de gauche, se rejoignent et partent ensemble dans une troisième direction. Il y en a 3 de ces vallées. C'est ici le lieu d'où elles divergent. 3 mamelons, 3 épines de roc, et au pied de chacune une naissance. Non pas la source comme dans la plaine, non pas ce ressurgissement, une eau venue des profondeurs. Rien de secret, rien de caché. On voit tout, on voit comment chaque flaque de neige émet à son extrême pointe quelque chose qui semble la continuer et se meut, et semble être un peu d'elle-même un étroit allongement de sa propre surface qui s'étire et brille comme elle dans le jour. Le bruit bientôt s'accroît, et que le débit de l'eau augmente à mesure que le soleil monte. Elle fait masse, elle se précipite, elle baisse la tête en avant comme le taureau qui va corner. Elle s'attaque à l'obstacle, elle creuse, elle s'enfonce, elle s'acharne, et à chaque minute un peu davantage, et toutes ces minutes finissent par faire des siècles et des siècles de siècles. En tout temps, de jour et de nuit, avec la même obstination, elle s'est ouvert un passage jusqu'à la mer lointaine où son poids l'oblige à aller. Sciant le roc avec minutie et patience, emportant dans son courant la montagne pulvérisée, lente ou rapide, bruyante, silencieuse, à travers tous les obstacles, elle s'est ouvert un chemin. Et maintenant, on regarde d'ici le résultat de son travail. Ces 3 vallées, ces 3 profonds sillons qu'elle sait peu à peu creuser dans l'enchevêtrement des chaînes. On entend rouler des pierres, on entend la détonation sèche de celles qui viennent en sifflant s'écraser contre un rocher. On entend le long glissement doux d'une nappe de neige qui finit dans la distance par un roulement de tonnerre. On entend l'eau qui ruisselle, on n'entend plus rien. Alors vient la chanson de l'air dans une fissure de roc, comme quand quelqu'un joue de la flûte. séparées les unes des autres, ces vallées, par les bastions intermédiaires, l'œil ne peut pas les suivre dans leur déroulement. Seule celle qui est juste au-dessous de vous, dans votre axe, se devine sur tout son parcours. Le regard s'y engage et se laisse entraîner. Vient un premier enfoncement. Le regard fait le saut et se retrouve étourdi à l'étage plus bas, ayant passé à travers un voile d'air bleu, pareil à une légère fumée qui est étendue sur les pentes, dont l'une, celle qui est tournée du côté du levant, se réjouit du beau soleil qu'elle reçoit, luisant sombrement dans le bas à cause des forêts dont elle est revêtue, et plus haut, toute rase, éclate d'un vert cru, où des villages blancs et bruns sagement sont assis, des villages tout ronds. Le brillement de leurs vitres fait comme si on vous tirait des coups de feu dessus. Les toits fument, mêlant leur bleu vivant au bleu figé de la distance, et les yeux de l'un à l'autre descendent, se laissent porter jusqu'à la large encoche en forme de triangle qui s'ouvre sur la plaine où est le fleuve, où sont les routes, où est une ligne de chemin de fer. Ils ont de la chance. Cela, leur vallée, est d'accès facile. Il y a un train électrique qui leur apporte de l'argent, c'est-à-dire des touristes. Ils vendent leur soleil, leur bon air. Ils vendent le droit de respirer, de regarder et d'admirer la vue. Ils ont d'ailleurs de quoi se bien nourrir, et leur bétail, ayant de l'herbe en abondance, ayant de nombreux champs de seigle, qu'en bonne exposition ils épinglent autour des villages comme des mouchoirs de couleur. Ils construisent des hôtels. Les prés qui valaient quelques sous deviennent du terrain à bâtir et se vendent 10 francs le mètre. Mais il y a ceux de l'autre vallée, du côté de l'est, à votre droite. On ne les voit pas, on les devine. Il y a entre eux et nous cette chaîne latérale qui devient toujours plus haute à mesure qu'on s'éloigne du point où elle prend naissance. Et eux sont de l'autre côté. Eux sont profondément enfoncés entre. Deux chaînes parallèles dont seule l'extrême crête dentelée reçoit encore la visite de l'astre et se dore et brunit comme un champ de blé mûr. Eux doivent lever la tête. La lumière fait pont au-dessus d'eux. Ils sont sous le pont. Ils ont froid. Ils ont de gros habits de laine brune non dégraissés. Ils ont les mains dans les poches. Ils regardent vers en haut. Ils disent « Beau temps !» Ils disent « Eh bien, alors ou quoi? Ce sera pour ce soir ?»« Entendu, » répond-on. Ils partent, parce qu'ils sont pauvres, avec des ballots de 30 kilos sur le dos. Ces ballots sont soigneusement enveloppés dans de la toile cirée, à cause qu'il peut pleuvoir, à cause qu'il peut neiger et que le tabac coûte cher. Ils mettent leurs ballots dans des hottes, chacun la sienne. Ils attendent que la nuit soit venue. Ils sont 4. Ils n'ont pour faire la traversée qu'un mauvais chemin muletier, et puis plus de chemin du tout. Ils montent vers où nous sommes. Le col est dans le voisinage, et de l'autre côté du col, on est en pays étranger. Il y a des douaniers qui vous guettent au passage, et il faut passer malgré les douaniers. C'est parce qu'ils sont pauvres. Parce que leur vallée à eux est une mauvaise, étroite, petite vallée où rien ne pousse, rien n'attire. Alors ils achètent leur tabac 5 francs le kilo et le revendent 15 francs le kilo, quand ils le passent, quand tout va bien, ce qui laisse un bénéfice de 300 francs par charge. Mais il faut que tout aille bien. Ils partent à la nuit tombante, ils sont 4. Ils ont des jambières, ils ont des passe-montagnes qui leur couvrent les oreilles et se nouent sous le menton. Ils marchent les uns derrière les autres sans rien dire. La tête de celui qui vient en second est à la hauteur des pieds de celui qui va devant. Les clous de ses souliers grognent contre la roche à côté de votre figure. C'est pourquoi ils ne parlent guère. Ça monte raide, c'est étroit. Ils longent le bord de la gorge qu'on ne voit pas, mais qu'on devine, à cause d'un courant d'air froid. Et elle fait entendre un grognement. Elle aussi, qui est à leur gauche et monte vers eux, tandis qu'ils continuent à grimper à leur échelle dans la forêt, puis hors de la forêt, allumant par instant une lampe électrique de poche. Alors on voit se tordre, en travers du chemin, des serpents écailleux qui sont les racines des arbres. Et on voit, dessiner brièvement autour de soi, sortir de l'ombre et y rentrer une chambre ronde, à colonnes rouges, qui se déplacent et se déforment. Ils sont sortis de la forêt. Ils sont arrivés dans la région où nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire les grands pâturages, et ce qui est au-dessus d'eux, les parois, puis toute la chaîne où il y a le col qu'ils cherchent à gagner. C'est long, et pour un temps, ils vont à plat ou presque, ayant au-dessous d'eux un sol élastique et feutré. Ils sont maintenant dans la nuit. Ils sont de la nuit dans la nuit. Il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoiles. Ils voient au-dessus d'eux, vaguement, courir un ciel noir chargé de nuages dont on ne distingue la forme et l'entrechoquement qu'à une couleur plus claire qui prend place entre leurs fissures. Eux, ils recommencent à monter. Le ciel s'abaisse. Ils sont dedans. Les nuages descendent, eux montent. Vous tendez le bras, vous n'avez plus de bras. Vous jetez un regard le long de votre personne, elle commence, elle ne finit plus. Ils sont dans le brouillard, et c'est tant mieux peut-être, à cause des douaniers. Et eux, heureusement, connaissent chaque mouvement de terrain, chaque particularité du sol et chacun des quartiers de roc qui jalonnent leur chemin. Mais il faut à présent les tâter avec les mains, aller à leur rencontre, comme à la devinette, et tourner longuement alentour avant de leur tomber dessus. « Ah, c'est toi, » disent-ils, « alors il nous faut prendre à gauche. » Le brouillard, et puis le vent, mais qui ne le disperse pas. Le brouillard, le vent, la neige, quatre hommes dans la haute montagne, le brouillard, le vent, puis la neige. On ne la voit pas venir. Elle est là, on la sent. Elle ne tombe pas d'en haut. Elle vient à votre rencontre depuis par terre. C'est comme si on vous jetait du gravier à la figure. Ça vous entre dans le nez, ça vous pique la peau. On ne peut plus respirer. 30 kilos sur le dos. Et la grimpée qui devient dure. Ils se cherchent les uns les autres. Ils ne se voient pas. Ils s'appellent sans s'entendre. Ils sont dans le vent qui souffle. Ils sont en équilibre sur une saillie de roc où ils ne mordent que par les clous qui sont au bord de leurs chaussures et ils se tiennent de la main plus haut à quelques médiocres prises. Quatre hommes d'une pauvre vallée, avec leur charge de tabac, qui cherchent à gagner leur vie. La frontière n'est plus loin. On distingue vaguement au-dessus de soi, à faible distance, l'affaissement qui se fait sur le ciel de l'échine de la montagne. La place où ils doivent passer. « Allons, disent-ils, allons-y. » Ils se sont retrouvés, ils se tiennent serrés les uns contre les autres. Ils se crient des choses dans l'oreille. L'un d'eux sort de sa poche une gourde de gouttes. Ils se la passent, ils boivent un coup, ça réchauffe, et puis, disent-ils, on y va. Maintenant, ils sont disposés contre la paroi, comme quand on monte dans un cerisier à une échelle au temps des fruits. Le premier lève le pied, fait un mouvement vers en haut, l'autre suit. Il s'élève par des saccades suivies d'un moment d'arrêt. Ils sont comme une corde à nœuds qui se balance. Chaque nœud, c'est un homme. Ils s'élèvent encore. Ils sont au sommet de la chaîne. Ils tournent le dos au vent et à la neige. Ils sont blancs d'un côté, noirs de l'autre. Ils se serrent les uns contre les autres. Ils s'empruntent les uns aux autres. Un peu de leur chaleur. C'est ceux d'une des trois vallées, la troisième, celle du Levant, ne compte pas. Elle n'est pas habitée. C'est un couloir précipitueux qui s'ouvre dans le flanc du massif. Un coup de sabre qu'il a reçu et l'homme n'y peut pas vivre. Il n'y a que les morts. Ça commence vers le haut par un entonnoir où pend le glacier. On entend sa canonnade. Car tout le temps, il s'en détache des blocs de glace, des fragments de serac pointus du bout, comme ces bâtons de sucre que sucent les enfants, qui s'écroulent, et entre les parois resserrées font un encombrement, derrière lequel l'eau s'accumule. On avait envoyé là-haut des ouvriers du pays pour essayer d'établir des barrages et des digues, afin de contenir ces afflux toujours menaçants. On ne les a jamais revus. Détruits, emportés. Recouverts, mais ils reviennent. Ceux qui passent le tabac les ont vus. À un de ces moments où ils s'arrêtent pour souffler, ils les ont vus d'en haut, ils n'ont vu que leur tête. Dans le silence et dans la grande nuit, quelque chose de blanc qui dépasse le bord de la faille, comme quand on regarde par-dessus un mur. Ce quelque chose de blanc se recache. C'est comme des têtes enveloppées de bandages, mais, disent les passeurs, des têtes seulement. On ne voit jamais le corps tout entier. Peut-être qu'ils nous avaient vus, nous autres, puisqu'on les voyait. Ils ont peur de ce qui est en vie. Ou bien, est-ce qu'ils en sont jaloux? Mais, sitôt parus, sitôt recachés, dans le grand silence où seulement, de temps à autre, une pierre qui roule fait comme si on essayait de parler, ou bien aussi c'est une toux, comme quand un vieux a un catarrhe. Fin de Trois Vallées de Charles Ferdinand Ramu. Fin du recueil Nouvelles de Charles Ferdinand Ramu. Édition Bibliothèque Numérique Romande. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net.